Leur séparation s'étale à la une de la presse internationale. Les milliardaires Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans de mariage.
On adore les ragots sur les divorces de célébrités, mais celui-là pourrait avoir des répercussions mondiales. Que va devenir la richissime fondation ?
Engagée dans la lutte contre la maladie et la pauvreté, la fondation Bill et Melinda Gates, créée en 2000 par le couple, est aujourd'hui l'organisation caritative la plus puissante au monde. Partout où ils se rendent, les deux bienfaiteurs sont accueillis comme des chefs d'État. Et en pleine crise de coronavirus, Bill Gates n'hésite pas à faire la leçon aux leaders de la planète.
Moi et d'autres experts de la santé avions averti dès 2015 qu'une pandémie mondiale était la plus grande menace potentielle à laquelle le monde pourrait être confronté.
Engagés sur le terrain comme dans la collecte de fonds, Bill et Melinda ont lancé en 2010 un Giving Pledge, un appel à la générosité pour encourager les milliardaires à donner leur fortune de leur vivant.
Nous avons 40 autres couples aux États-Unis qui donnent 50% de leur fortune. C'est énorme. Même chose en Inde et en Chine, et ça va augmenter avec le temps. Quand les gens voient les projets, ils se disent « Je peux faire ça, je suis fier de le faire ».
Au total, 220 milliardaires ont répondu à l'appel des philanthropes américains. En France, en 2018, deux chefs d'entreprise ont lancé l'idée d'un giving pledge à la française, en plaçant la barre des dons à 10%, avec beaucoup moins de succès. Alors, altruisme sincère, besoin de reconnaissance ou optimisation fiscale, quelles sont les motivations des plus riches philanthropes de la planète? Faut-il laisser le soin aux milliardaires de changer le monde?
Tous les philanthropes sont riches. Axel Devzac, on va beaucoup jongler avec les milliards pendant cette émission, mais est-ce qu'on sait s'il y a un don moyen en France et si on trouve des donateurs surtout dans toutes les classes sociales?
Alors absolument, le don moyen en France, c'est 500 euros. Et il y a deux tiers des donateurs, donc des foyers fiscaux qui déclarent des dons aux impôts, déclarent des revenus de moins de 45 000 euros. Et à la Fondation de France, on a des dons de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros et de milliers d'euros aussi. Mais bien sûr, il y a toutes les catégories de revenus et de patrimoine dans les dons.
Mm-hmm. Alors, Benjamin, le chiffre du jour.
Et ils vont être importants, ces chiffres, justement. Oui, 40,
on part aux États-Unis.
41 milliards d'euros à la Fondation Bill et Melinda Gates. C'est donc l'organisation philanthropique privée la plus importante au monde, avec un fonds donc de 41,6 milliards précisément. Et la Fondation emploie 1700 salariés. Mais Anne Monnier, est-ce que vous pouvez nous éclairer quand même sur cette force de frappe financière? Vers quoi elle est dirigée exactement? Vers quoi investissent Bill et Melinda Gates?
Oui, alors énorme frappe financière. Il faut savoir que c'est à peu près le PIB de la Lituanie.
C'est ça.
Et donc c'est dirigé. Alors à l'origine, la fondation a été créée pour l'éducation et la volonté de permettre aux plus défavorisés d'accéder à Internet. Et puis maintenant, elle est vraiment axée sur la santé dans le monde et notamment en Afrique. Et donc ils se sont.
Quel type de mission? Éradiquer la malaria.
Voilà, exactement. La polio, l'éradication de la polio, du paludisme, du VIH, enfin aussi. Lutter contre le VIH, et puis aussi des missions d'éducation. Il faut savoir qu'en 2005, quand il y a eu l'ouragan Katrina aux États-Unis, la Fondation a aussi beaucoup agi pour aider en Louisiane et donc essayer de remettre en place tout le système éducatif avec énormément de critiques, puisque la Fondation Gates, il faut le savoir, est très critiquée. Mm-hmm.
Mais justement, Lucas Chancel, elle est très critiquée. Est-ce que c'est juste de la critiquer? Parce qu'en même temps, bien, les ONG aussi sont très critiquées. Pourquoi critiquerait-on plus Melinda et Bill Gates que les ONG dans leur fonctionnement?
Peut-être qu'on peut voir deux arguments dans ce débat. Le premier, c'est celui d'un choix de société. Mmh. Est-ce qu'on a envie d'être dans un monde où une poignée de milliardaires va décider ce qu'on doit financer, ce qu'on ne doit pas financer, les secteurs qui vont compter et ceux qui ne vont pas compter? Ça, c'est la première question.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'action des milliardaires peut orienter les politiques publiques?
Absolument. C'est notamment le cas dans de nombreux pays en développement, dans de nombreux pays émergents, où ce que va pouvoir verser la fondation Bill et Melinda Gates dans le secteur de la santé notamment, peut représenter une partie considérable du budget de ce secteur de la santé, du budget public. Donc là, il y a un vrai choix de société. Mais l'autre question qu'il y a derrière, c'est comment est-ce que cette fortune-là, ces 41 milliards d'euros, ont été amassés? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces investissements? Prenons le cas de Bill Gates. Il fait fortune avec Microsoft. Mmh. Microsoft, ça reste quand même une multinationale qui est sous le coup depuis 10 ans de poursuites judiciaires par le fisc américain. pour ne pas avoir payé ses impôts, pour optimisation ou évasion fiscale, c'est là tout le débat, pour avoir délocalisé 39 milliards de dollars de profits à Porto Rico, où le taux d'impôt société est de 0%. Mmh. Donc, d'un côté, il y a des entreprises, des milliardaires qui vont assécher les finances publiques. Mmh. On se retrouve avec moins d'argent pour les services publics. Mmh. Et ensuite, ces mêmes milliardaires reviennent la bouche en fleurs pour dire, voilà, nous, on va sauver le monde avec ces mêmes milliards. Donc ici, il me semble qu'il y a un vrai problème. Il y a aussi une contradiction.
Mmh. Axel Davezac, votre sentiment sur cette question, puisque vous êtes au cœur de ces problématiques éthiques, à la fois financières et éthiques. Vous
êtes mais mon sentiment, c'est qu'on ne peut absolument pas comparer les États-Unis et la France. D'abord parce qu'en termes d'ordre de grandeur,
en termes d'échelle,
on n'y est pas du tout. La philanthropie aux États-Unis, c'est près de 400 milliards de dollars. En France, la générosité privée, particulier et entreprise, c'est 7 milliards et demi. Donc déjà, vous voyez bien qu'on ne joue pas du tout dans la même cour en termes d'ordre de grandeur. Donc la capacité de la philanthropie en France aujourd'hui, avec 7 milliards et demi, on fait des choses, mais enfin, on ne fait pas non plus des tonnes de choses. Et à aucun moment, on peut se prévaloir de venir remplacer ou suppléer l'État. Et la conception même dans notre pays de la philanthropie est très différente. C'est-à-dire que, vous avez dit l'État-providence, oui, aujourd'hui, les Français... Et c'est historique, culturel et une réalité. C'est l'État qui s'occupe d'avoir une éducation gratuite, l'école publique. C'est l'État qui
gère de la santé et éventuellement d'aider à réduire les inégalités.
La sécurité sociale, l'assurance chômage, tout ça, c'est public. Donc la part de la philanthropie, en fait, la philanthropie, elle est là à côté et en complémentarité de l'action publique pour venir expérimenter, agir, trouver des solutions pour qu'ensuite elle soit reprise par les pouvoirs publics. Ça n'a rien à voir.
Anne Monnier, qu'est-ce qui les motive vraiment? Est-ce qu'ils attendent une reconnaissance, ces grands philanthropes? Est-ce qu'on doit leur faire cette critique-là? Parce que tout don, parfois, a un intérêt, même quand on le donne en tant que particulier.
Aucun don n'est gratuit?
Ouais. Exactement. Alors, les sociologues et les anthropologues, Marcel Mauss a bien montré qu'il y avait un don et un contre-don. Et Bourdieu disait que le capital économique faisait face au contre-don de capital symbolique. Après, je pense que la question des motivations est extrêmement complexe. Et il ne faut vraiment pas voir ça de manière dichotomique, intérêt-désintérêt. Il y a vraiment une grande diversité de motivations. Évidemment, la question fiscale est essentielle. Et on en discutait tout à l'heure au moment où l'ISF est devenu IFI, il y a eu une baisse des dons. Et cela montre bien...
L'impôt sur la fortune qui est devenu un impôt sur le patrimoine immobilier.
Exactement, exactement. Et donc, du coup, ça montre bien que l'incitation fiscale est importante. Mais il y a beaucoup d'autres motivations. Il y a des motivations personnelles, un intérêt pour la cause, l'envie d'avoir un impact, l'envie de rendre à sa communauté, mais aussi...
Ça, c'est une tradition américaine depuis le milieu du 19e siècle.
Absolument.
Les riches rendent à leur communauté.
Exactement. Aux États-Unis, l'idée de giving back to the community est vraiment très importante. Et on donne à son école, à son université, et ça a donc un impact important. Mais je pense qu'il faut vraiment être très vigilant sur la question des motivations.
Lucas Chancel, quand on sait que la Fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième contributeur financier de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce que ça dit sur leur poids de fondation transnationale? Et éventuellement les dérives, peut-être, politiques.
C'est un poids qui est considérable.
Géopolitique.
C'est un poids qui est considérable. C'est une fondation qui va pouvoir orienter, comme on l'a dit tout à l'heure, des budgets de santé, qui va pouvoir aussi orienter des programmes de recherche, qui va pouvoir financer certains secteurs de la recherche plutôt que d'autres, qui va pouvoir s'entourer de certains chercheurs, que ce soit en économie, en sciences sociales, dans tous les domaines.
Pourquoi est-ce que ce sera un problème, ça, pardon, que certains soient mieux dotés que d'autres?
Eh bien, parce que quand vous avez un financement public de la recherche, il y a des commissions qui vont être pluralistes, qui vont être multiples, et qui vont décider de ce qu'on finance ou pas sur la base de la qualité de la recherche. Quand vous avez une fondation qui est dirigée par une personne, vous avez beaucoup moins de pluralisme. Et vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler la plutocratie. Plutos, le dieu de la richesse en grec.
Le gouvernement des riches.
Le gouvernement des riches. Et c'est précisément ça l'enjeu qui est posé par ces milliards. Donc je pense qu'il faut faire un distinguo entre la question des donations des petits donateurs, dont on parlait tout à l'heure, versus les très gros donateurs qui sont en fait en train de remplacer, dans certains cas, des services publics, de l'action de certains gouvernements.
Aux États-Unis, Axel Davezac, ça marche bien, la philanthropie. Alors qu'en France, eh bien, écoutez, ça, c'est plus compliqué. Parce que si j'en crois l'appel des patrons français d'AXA et Sanofi en décembre 2018, qui ont demandé à leur père de donner 10% au caritatif, ça n'a rien donné derrière, non ? Contrairement à ces milliardaires, 220 milliardaires aux États-Unis, qui eux sont engagés à donner la moitié de leur fortune. Il y a une forme de réticence en France sur la philanthropie de la part des plus riches.
Alors, la première chose, c'est quand vous faites référence à cet appel, vous ne parlez pas de la totalité de la philanthropie. Aujourd'hui, en France, la philanthropie se développe. Chaque année, vous avez une croissance des dons très régulière. Et 2020 était une année... vraiment, je veux m'arrêter un instant là-dessus, parce que c'est ça la philanthropie en France. Ce ne sont pas, pardonnez-moi un peu, ces caricatures qu'on nous montre souvent. Premier confinement, il y a un an tout juste... tout le monde va très mal. Et à la Fondation de France, on se dit qu'il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on aille aider les soignants, les personnes vulnérables et la recherche. Et on est très hésitant à lancer un appel à dons parce qu'on se dit que ça va
pas marcher.
Tout
le monde est dans la difficulté.
Tout le monde est inquiet. On a collecté 40 millions d'euros.
Ce qui est plus par rapport à 2019, vous voulez dire que c'est
bien plus. C'est un élan.
Qui a donné ?
Mais tout le monde.
Vraiment.
Des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et des gens qui étaient beaucoup plus. Si, bien sûr.
Vraiment. Sur les 40 millions, c'est quoi ? Bien, dites-nous, sur les 40 millions, combien sont les.
C'est peut-être un peu secret.
Non, bah, en pourcentage, vous pouvez dire, par exemple, les grands dons, combien ils représentent.
Mais on a des dons, effectivement, qui vont être de 50 euros ou des dons de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On commence à avoir des gens très riches quand on donne plus de 10 000 euros, me semble-t-il. Ce que je veux dire par là, c'est que cette générosité, elle est très présente dans notre pays et elle est très partagée. Il y a plus de 5 millions de foyers fiscaux qui sont donateurs. Le point que vous soulevez, qui est une partie de la philanthropie, qui est la philanthropie des très riches, en fait, je crois qu'en France, il n'y a pas du tout la même conception, le même lien à la philanthropie. Aux États-Unis, quand on a réussi, on est presque obligé d'être philanthrope et il faut être vu... En France, c'est l'inverse. On cache sa fortune, on ne dit pas. Et donc, je peux vous dire, je connais des gens qui ont des fondations qui sont abritées à la Fondation de France, qui sont des gens qui ont énormément d'argent, mais qui restent très discrets.
Mais Lucas Chancel, en plus, les philanthropes français ne veulent pas remplacer l'État français.
Ça, je leur laisse la réponse. Mais juste pour remettre en perspective, hein, pendant un an qui a constitué la crise qu'on vient de passer, selon les données de Forbes sur les milliardaires français, le patrimoine, la valorisation boursière des milliardaires français a augmenté de plus de 150 milliards d'euros, juste pendant un an, pendant cette crise. Est-ce qu'on retrouve ça dans les données de la Fondation de France ? Est-ce qu'il y a eu une hausse, un supplément de dons qui correspond à cette énorme hausse de la valorisation boursière ? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment la redistribution va se passer par ce canal-là, par ce mécanisme-là ? Ça, c'est une question qui me semble importante.
Il y a une autre question, l'évasion fiscale. On va y revenir avec vous, Nadia.
Oui, parce qu'encore une fois, vous citiez cette période de confinement. Au début de l'épidémie de Covid-19, on a vu des entreprises, en l'occurrence des entreprises du CAC 40, contribuer très généreusement à l'effort de guerre sollicité par Emmanuel Macron. On va citer par exemple le groupe LVMH qui, dès le 15 mars, avait annoncé la livraison gracieuse de flacons de gel hydroalcoolique aux 39 hôpitaux de la PHP, 10 millions de masques d'une valeur de 5 millions d'euros. Le groupe BNP Paribas a également offert 1 million de masques. Ils ont versé 1 million d'euros à l'Institut Pasteur pour la recherche sur le vaccin. Je mentionne également Total qui a offert des pleins d'essence gratuits au personnel soignant. Or, en effet, il se trouve que ces trois groupes français sont aussi ceux du CAC 40 qui sont les plus présents dans les paradis fiscaux. D'après une étude d'Oxfam, il figure également dans l'enquête internationale Open Lux sur les entreprises, ces entreprises qui ont créé des filiales au Luxembourg, évidemment, pour bénéficier d'avantages fiscaux. Parfois, il s'agit de simples boîtes à lettres. Il convient de rappeler que ces stratégies privent l'État français de 10 à 20 milliards d'euros par an, selon les calculs. De quoi construire et faire fonctionner en France 58 centres hospitaliers de taille moyenne. Lucas Chancel, vous le disiez, on donne avec la philanthropie ce qu'on a pris avec l'évitement fiscal. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut refuser cet argent ?
Je pense
notamment
que,
dans des situations de crise.
Vous savez, ce débat, il n'est pas nouveau et il n'est pas uniquement français, il est américain. Au début du XXe siècle, le président Theodore Roosevelt disait « Les dépenses en bienfaisance de ces philanthropes n'effacent pas les inconduites à travers lesquelles ils les ont amassées ». Qu'est-ce qui a été développé aux États-Unis suite à cette période du capitalisme, des barons du système industriel américain ? C'est les réglementations antitrust, c'est des impôts extrêmement élevés sur les plus hauts revenus, pour dire qu'en fait, ces dépenses-là, eh bien, on va gagner à les faire collectivement, à les faire via l'impôt, via la puissance publique. Donc je pense que la question, ce n'est pas de se demander est-ce